Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon cet automne. Artiste aux multiples facettes, mais aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et militante antiraciste. Un choix très politique d'Emmanuel Macron. Une rentrée la plus normale possible à l'école, pas de pass sanitaire, précise le ministre de l'Éducation, ni d'obligation à propos de la vaccination, mais de l'incitation. À la une aussi, l'Afghanistan, la France répond aux critiques sur ses opérations d'évacuation. Et les 24 heures du Mans, on se rapproche de la fin, plus que 3 heures, mais encore quelques tours de piste quand même. La météo, il fait plus frais cet après-midi, sauf sur la Côte d'Azur.
France Inter.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante et de plus en plus aux grandes femmes. Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre. Elle y sera la première femme noire, franco-américaine, artiste de musical, J'ai deux amours, Mon pays et Paris, mais aussi figure de la résistance et de la lutte antiraciste. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Emmanuel Macron a donné son accord fin juillet et c'est donc un choix très politique.
Oui, après Simone Veil et Maurice Genevoix, le chef de l'État va pour la première fois de l'histoire panthéoniser une femme noire née aux États-Unis qui a embrassé la France dans les années folles. Avant d'entrer dans la résistance, elle reposera donc aux côtés de Jean Moulin, la fantasque et le supplicié, des folies bergères au suprême sanctuaire, de la ceinture de banane à la couronne de laurier. Le Front National accusera, écrivait Régis Debray il y a 8 ans. Ce fut le premier à réclamer son entrée au Panthéon. Joséphine Baker a eu 1000 vies en 1963, elle défile, se bat aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques à Washington. C'est cette figure audacieuse, courageuse qu'Emmanuel Macron a donc choisi de célébrer. Et on l'apprend 6 jours après la polémique suscitée par ses propos contre les flux migratoires irréguliers qui pourraient venir d'Afghanistan. Il veut ainsi réaffirmer que la France est une terre d'asile où tout est possible, où une immigrée peut devenir une icône, une star mondiale. Message on ne pompe plus contemporain qui résonnera donc à 4 mois de la présidentielle Place des Grands Hommes, car Joséphine Baker est devenue française le 30 novembre 37 grâce à son mariage avec Jean Lion.
On avait aussi parlé, Maxence, d'une possible entrée de l'avocate féministe Gisèle Halimi au Panthéon, hypothèse qui semble définitivement écarté.
Oui, comme nous vous le révélions sur France Inter au printemps, en effet, Emmanuel Macron a préféré l'apaisement parce que Gisèle Halimi, elle aussi figure féministe, s'était fortement engagée contre la guerre d'Algérie.
Maxence Lambrec, service politique d'Inter, et Joséphine Baker, donc 6e femme à entrer au Panthéon. Bonjour Jacques Pessis.
Bonjour Xavier.
Vous êtes journaliste, biographe de Joséphine Baker. Vous avez suivi évidemment le processus de panthéonisation de Joséphine Baker. J'imagine d'abord que vous êtes plutôt heureux que sa panthéonisation soit annoncée.
Très heureux parce que Brian Baker, l'un de ses 12 enfants, s'est beaucoup battu pour ça. Il a lancé une pétition et ça faisait des années que les enfants de Joséphine Baker rêvaient d'une telle chose, même s'ils disaient que leur mère aurait trouvé ça un peu trop fort parce qu'elle n'était pas une intellectuelle et ne méritait pas ça. Mais ça, c'était sa modestie.
Jacques Pessis, vous avez suivi donc ce processus qui est un processus long avec des négociations. Comment ça se passe, les coulisses d'une entrée au Panthéon?
Ben, je sais qu'il y a une pétition qui a été signée, que le 4 juin, qui était le jour de l'anniversaire de Joséphine Baker, ils y sont allés voir Emmanuel Macron avec ses arguments, et qu'ensuite, Emmanuel Macron, après avoir fait étudier le dossier, a dit oui. Et c'est tout, ça se passe comme ça. Et c'est vraiment la famille qui a voulu ça, et les amis, les personnalités qui ont suivi. Et ça a été des semaines et des semaines de travail pour Brian Baker et les gens qui travaillent avec lui pour obtenir toutes ces signatures.
Alors, vous avez signé donc une biographie de Joséphine Baker en 2007. On connaît l'artiste, sa carrière de chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue. On connaît moins l'autre Joséphine Baker, c'est la résistante et la militante. Et ça, c'est une partie majeure de sa vie, en fait.
Oui, c'est même l'essentiel. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu la guerre. La guerre, elle est en France. On lui propose d'être correspondante de guerre. Elle appelle ça honorable correspondante. Et elle va faire passer à Londres des messages de façon très simple. C'est-à-dire qu'elle obtient des informations qu'elle fait écrire à l'encre sympathique sur ses partitions. Et bien sûr, aux frontières, les douaniers lui donnent des autographes et ne la fouillent pas. Donc pendant 4 ans, elle va vraiment aider la France et la résistance. Et je crois que le plus beau jour de sa vie, c'est le jour où De Gaulle lui a remis une petite médaille de la France libre, avec une croix de Lorraine, lors d'un gala à Alger, où il était présent en 1943.
Et il y a aussi son engagement contre le racisme, le mouvement des droits civiques pour l'émancipation des Noirs.
Oui, là aussi, elle a été une pionnière. Bon, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, à l'époque, quand elle va à Cuba, il n'y a pas de chambre pour elle. Elle ne le supporte pas. Mais le tournant, je pense que c'est un soir dans un club de Los Angeles qui s'appelle le Stork Club. Elle est invitée à dîner par un ami blanc. Elle arrive, on lui interdit l'entrée parce qu'elle est noire. Cet ami dit, mais je la connais bien, c'est une amie, donc elle rentre. Et curieusement, tous les plats qu'elle commande, il n'y a plus rien pour elle. Et là, elle se met en colère. Elle lance une information, une pétition. Et dès le lendemain, la presse reprend l'information. Et c'est là où vraiment, on va pour la première fois entendre parler de Joséphine Baker, antiraciste, défendant les Noirs, qui sont ses frères et ses sœurs. Et d'ailleurs, il va y avoir ensuite une journée Joséphine Baker à Harlem, où elle va défiler devant des foules qui l'acclament. Et il y a un autre tournant, c'est que ce soir-là, il y a une spectatrice de cette scène qui est une actrice américaine, Grace Kelly. Et c'est pour ça qu'ensuite, Grace Kelly, devenue Grace de Monaco, va accueillir Joséphine à Monaco.
Jacques Pessis, est-ce que cette multiplicité, ces multiples vies, c'est ce qui fait d'elle une personnalité panthéonisable ? Emmanuel Macron a dit qu'il l'a trouvée moderne et inspirante.
C'est vrai qu'elle a été archi moderne avant l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment bon. Il y avait la danseuse, la chanteuse avec la ceinture de banane qui ne passerait plus aujourd'hui à mon avis. Mais il y avait surtout, comme on l'a dit, la résistante et la militante. Et ça, effectivement, c'est archi moderne, c'est archi d'actualité et elle est un symbole.
Jacques Pessis, journaliste et biographe de Joséphine Baker, dont vous retrouvez les grandes étapes de sa vie sur franceinter.fr et qui entrera donc au Panthéon le 30 novembre. Information confirmée par l'entourage d'Emmanuel Macron ce midi. 13h07, deux nouvelles fusillades à Marseille, 3 morts au total en une seule nuit. 3 hommes connus pour trafic de drogue, âgés de 25, 26 et 27 ans. 2 tués par balle dans le 14e arrondissement. Le corps de la 3e victime a été retrouvé dans une voiture dans le 13e arrondissement. Il vise une rentrée scolaire normale. Le ministre de l'Éducation précise le protocole sanitaire pour la rentrée dans le journal du dimanche. Gestes barrières, port du masque, tout ça ne change pas. S'ajoute l'interdiction des sports de contact et une incitation à la vaccination, Philippe Lefebvre.
Jean-Michel Blanquer indique en effet que celle-ci sera possible pour les collégiens dès 12 ans. Des sites de vaccination seront mis en place à proximité ou à l'intérieur des collèges et des lycées, mais la vaccination ne sera pas obligatoire. Par ailleurs, lorsqu'un cas positif sera signalé, il n'y aura pas de fermeture de classe. Les responsables des établissements devront identifier les cas contacts et là, deux possibilités. Les élèves vaccinés pourront poursuivre les cours et les autres seront contraints à un isolement à domicile de 7 jours, mais ils recevront leurs cours via Internet. En revanche, pour les écoles primaires, le principe de fermeture de classe en cas d'apparition d'un cas positif reste la règle. Enfin, à propos du pass sanitaire, le ministre de l'Éducation est catégorique. Il ne sera pas demandé, que ce soit aux élèves, aux enseignants ou aux parents, pour rentrer dans les établissements où Jean-Michel Blanquer espère que la rentrée sera la plus normale possible. Pour ce qui est toutefois des Antilles et de la Guyane, des décisions spécifiques devraient être prises dès la semaine prochaine.
Les Antilles où la pression ne retombe pas encore, les hôpitaux toujours surchargés malgré l'aide venue de métropole et les transferts de patients. La Polynésie française, elle aussi, est frappée par une vague fulgurante de l'épidémie, malgré une progression de la vaccination ces derniers jours. Confinement durci à partir de demain, fermeture des écoles pour 2 semaines, indispensable d'après le haut commissaire de la République sur place, Dominique Saurin.
Bien sûr, la vaccination a progressé, a réaccéléré ces derniers jours. On a 45% de la population majeure qui est complètement vaccinée et 58% qui ont au moins une dose, mais c'est une accélération récente. Et c'est vrai que le taux de vaccination était insuffisant et c'est lié aussi avec des comorbidités qui sont très fortes sur notre territoire, problèmes de diabète, problèmes d'obésité, ce qui fait que nous avons un hôpital qui est engorgé avec beaucoup de personnes hospitalisées, beaucoup de personnes en réanimation. Mais la vaccination, c'est nécessaire. On se mobilise. Alors, on a un exemple, les Marquises, qui est un archipel éloigné de Tahiti et où 90% de la population est vaccinée. La campagne a bien marché dans ces territoires, qui est composé de 6 îles habitées, et nous nous retrouvons aujourd'hui aux Marquises avec très peu de cas. On a une 60aine de cas actifs et aucun cas grave.
Dominique Saurin, haut commissaire de la République en Polynésie française, il répondait à Solène Cressant. Nous parlions des droits civiques en début de journal avec Joséphine Baker. Aux États-Unis, le révérend Jesse Jackson, 79 ans, compagnon de route de Martin Luther King, est hospitalisé, testé positif au Covid malgré sa vaccination au mois de janvier.
France Inter, le journal de 13h,
Xavier Demani.
Les évacuations se poursuivent à Kaboul une semaine après la prise de pouvoir des talibans. Des milliers d'Afghanes et d'Afghans tentent de fuir le pays coincé entre d'un côté les Américains qui tiennent l'aéroport déjà bondé et les islamistes de l'autre. La France poursuit aussi ses évacuations. Une centaine de personnes arrivées hier soir à Paris. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Xavier.
Le Quai d'Orsay qui répond ce dimanche d'ailleurs aux critiques sur les exfiltrations françaises et leur nombre. Toutes les demandes seront examinées, assure Jean-Yves Le Drian.
Oui, en une semaine, l'armée de l'air française a exfiltré un peu plus de 650 personnes sur 5 vols, dont une très large majorité d'Afghans. Un chiffre qui doit être complété, précisent les autorités, car entre mai et juillet, 625 transferts ont déjà été effectués en prévision de la prise de pouvoir des talibans. Trop peu aux yeux des nombreuses ONG et membres de la société civile qui tentent de sauver les Afghans les plus menacés du chaos régnant autour de l'aéroport. Par ailleurs, la France refuse de prendre un engagement chiffré sur les évacuations. Contrairement aux États-Unis qui entendent exfiltrer au moins 50 000 Afghans, le Canada dit vouloir en accueillir 20 000, l'Allemagne 10 000. Une inflation de chiffres à laquelle la France ne participera pas, confirme l'Élysée. Pas de quota, cela n'aurait pas de sens, dit-on, car on veut faire le maximum. Tous les cas qui se sont manifestés sont instruits, assure donc ce matin Jean-Yves Le Drian. Façon de répondre aux critiques très virulentes depuis l'allocution d'Emmanuel Macron l'année dernière et sa phrase sur les flux migratoires irréguliers. Débat inflammable, vous le savez, à quelques mois de la présidentielle.
À l'aéroport de Kaboul, des bousculades ont fait 7 morts ces dernières heures. Ce dimanche, les talibans reprochent aux États-Unis d'être responsables du chaos qui règne sur place. Aux États-Unis, l'ouragan Henri, catégorie 1 sur 5, fonce vers New York, région d'ordinaire épargnée par ces phénomènes. Forte pluie annoncée et risque d'inondation, des vents jusqu'à 120 km/h. Un week-end de sport avec la suite de la 3e journée de Ligue 1 de foot. Lyon mène pour l'instant 1-0 contre Clermont et en clôture ce soir Nice-Marseille à 20h45. Les trois dernières heures sur 24 au total, fin des 24 heures du Mans cet après-midi dans la Sarthe. Bonjour Didier Charpin.
Bonjour.
Vous suivez la course depuis 21h maintenant et quelques difficultés ce matin pour Toyota.
Ouais, elles ont été légères, hein. Pas des difficultés mécaniques sur la voiture, plutôt des problèmes d'approvisionnement à la pompe, c'est-à-dire au stand, quand il fallait refaire le plein. Alors chez Toyota, on n'a pas donné beaucoup d'explications techniques, on dit avoir contourné le problème. Mais effectivement, les Toyota ont fait quelques relais sans pouvoir remplir les 90 litres de capacité de leur réservoir. Ça leur a fait perdre un peu de temps, mais pas de quoi être franchement menacé par l'Alpine, qui est toujours en troisième position. Au moment où je vous parle, c'est donc une Toyota en tête. Un tour d'avance sur la voiture sœur et 5 tours d'avance sur l'Alpine. 5 tours fois à peu près 17 minutes pour les parcourir, ce qui signifie que c'est une avance significative, mais certainement pas définitive. Un petit problème, un disque de frein a changé, même une crevaison, ça peut tout remettre en cause, alors qu'il reste 2h47 ici à parcourir et que des nuages menacent. Alors pour l'instant, pas de pluie, mais les nuages qui avaient animé entre guillemets le départ tournent à nouveau autour du circuit.
Didier Charpin, 24 heures du Mans, merci à vous. La solitaire du Figaro, 52e édition, course à la voile en solo donc et par étapes. Départ 6h moins le quart ce soir à Saint-Nazaire, 34 marins au départ, mais aucun ancien vainqueur pour cette épreuve sportive. Et puis, fin des vacances bientôt, mais encore le temps de profiter du grand air. Réunion d'Anne ce week-end à Saint-Sauveur, c'est dans Lyon. Rien à voir avec le prénom, rien de péjoratif non plus. On parle de l'animal aux grandes oreilles dont des passionnés veulent redorer l'image de cheval du pauvre. Delphine Marion Boule.
Sur l'attelage, les guides bien en main, c'est Véronique. Et ses deux complices du jour sont
Adam. C'est Dandan, c'est pas très joli comme surnom. Et Annette, ma bibiche, voilà, parce qu'elle est beaucoup plus sage que l'autre.
Au départ, elle était amoureuse des chevaux. Et puis un jour, elle a rencontré une ânesse. Le coup de foudre, maintenant, elle a 15 ânes à la maison.
Le caractère, la complicité qu'on doit avoir, c'est deux équidés vraiment complètement différents. Pour résumer, un cheval se dresse, un âne s'éduque. Je dirais un cheval à un propriétaire, un âne à un maître.
Le cheval est conditionné, l'âne est toujours en train de réfléchir, résume Gilles.
Il s'appelle Duc du Châtelet, il a 7 ans, c'est un grand noir du Berry.
N'allez pas leur dire que Duc, Adam ou Annette sont têtus ou bêtes à manger du foin.
C'est vrai qu'on a une image de l'âne, c'est têtu, ça marche à la carotte. Et en fait, non, c'est pas têtu, ça réfléchit longtemps. Faut installer une complicité avec lui et là, vous faites des choses extraordinaires.
C'est tout autant un ami qu'un allié.
À la maison, je le fais travailler une barre de coupe. Il tire une racleuse pour ramasser le foin pour faire des andins, comme nos anciens faisaient. Je lui fais tirer des arbres, un traîneau où je mets des sacs de sable dessus, où moi, des fois, je monte dessus.
D'ailleurs, au programme, une petite promenade d'une vingtaine de kilomètres à la fraîche. Allez, en route, mauvaise troupe.
Les ânes à l'honneur dans Lyon, à France Bleu, Auxerre pour leur portage.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Des températures en baisse cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Un air souvent plus frais qu'hier, sauf près de la Méditerranée où il fera entre 30 et 34 degrés avec du bleu soleil et un peu de vent dans le domaine de la Tramontane, des rafales d'ouest des Côtes-Varoises à la Corse et ce soir pour le Mistral. Sur le reste du pays, il est prévu un déficit de 3 à 6 degrés par rapport à hier avec 26 en moyenne sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et en Auvergne-Rhône-Alpes et 20 à 24 plus au nord. C'est un temps plutôt gris qui va persister sur le Finistère et le long des Pyrénées. Sur le reste du pays, le ciel va varier entre nuages et soleil dans une ambiance plus chargée et ponctuée d'averses, parfois de coups de tonnerre, du nord de la Seine aux frontières suisses et allemandes. Demain, toujours dans une certaine fraîcheur, le ciel va souvent rester assez variable avec des ondées, notamment au nord de la Loire et sur les Pyrénées, de l'orage du Mercantour à la Corse et à nouveau plus de soleil qu'ailleurs près de la Méditerranée où le vent sera modéré.
Jean-Michel Golinski de Météo France.